Vous êtes pratiquement tout cela. Toute ma famille judiciaire, toute ma famille amicale, tous ceux que je côtoie régulièrement avec bonheur, parce qu'ils sont tournés vers l'humain avant toute rhétorique. Monsieur Mola, merci à vous de nous accueillir dans cet antre de la culture que représente votre librairie. Vous êtes médecin et pourtant vous avez voulu perpétuer la tradition familiale avec un succès qui vous fait honneur. Monsieur le procureur général, avant d'aborder quoi que ce soit, je tenais à vous remercier. À vous remercier pour le soutien sans faille qui a été le vôtre et qui se manifeste encore ce soir par votre présence à mes côtés, ainsi que Madame Reed. Mesdames et messieurs du barreau, mesdames et messieurs les experts, sans lesquels évidemment tout acteur judiciaire serait dans l'incapacité d'être éclairé totalement, mes chers collègues que j'aperçois, mes amis, je reconnais même d'ailleurs dans l'assistance certains jurés. Avant d'aborder avec vous ce qui m'a guidée dans la conception de cet ouvrage, je laisserai la parole à Maître Charles-Étienne Gudin, qui a bien voulu, entre deux affaires particulièrement médiatiques, dont l'affaire Picasso, me faire l'honneur et le plaisir de rédiger la préface de ce livre. Mes remerciements vont aussi à sa sœur, Anne-Marie de Clavière, un jeune avocat, Cyril Pérez, qui m'a aidé dans la conception des affiches, ce qui est quand même important, et bien sûr à mon compagnon, à qui j'ai fait subir toutes les nuits d'insomnie, qu'il avait déjà connu comme grand policier. 30 années d'immersion dans le crime, avec toujours la même fascination pour le passage à l'acte criminel et pour l'humain, avec ses déviances, avec ses pathologies, avec ses interrogations, avec ses frustrations, avec sa détresse. Ce qui m'a guidée dans l'écriture de cet ouvrage, c'est sans doute de faire une pause de l'esprit pour exorciser quand même toute cette souffrance qui m'avait quelque part imprégnée pendant 30 ans. Et de susciter quand même une ultime confrontation avec tous ces visages des deux côtés de la barre qui m'ont affronté, qui m'ont interrogé du regard, qui m'ont jaugé en exprimant l'angoisse, en exprimant la douleur, en exprimant la colère ou en se murant derrière un masque d'indifférence le plus lisse possible pour éviter évidemment le morcellement de la conscience. Et là, je m'adresse aux psychiatres qui sont présents dans la salle. Je vous invite, à travers des affaires vécues en direct, sans filtre, sans écran, à pénétrer dans l'antre des cours d'assises. Une justice à part, une justice où l'on prend le temps de décrypter un passé, où l'on prend le temps de décrypter une personnalité, avant de se pencher sur des faits souvent inhumains, que l'on essaie d'appréhender et de comprendre malgré tout. Les affaires que je relate ne sont pas particulièrement médiatiques. Ça n'a aucun intérêt pour moi. Elles font partie du quotidien de la cour d'assises de Bordeaux. Elles n'empruntent ni à la provoque d'un Michel Houellebecq, qui, évidemment, s'engouffre dans la fiction politico-islamiste, ni au petit potin politique ou judiciaire qu'alimente un cercle parisianiste en mal de révélations croustillantes. Ce n'est pas mon propos. Il est clair et net que ces affaires vous concernent, nous concernent, parce qu'elles mettent en scène des êtres ordinaires, souvent ancrés sans problématique apparente au sein de notre corps social, des êtres qu'on peut côtoyer tous les jours, sans qu'ils attirent particulièrement notre attention, des êtres qui basculent à un moment donné, de façon totalement inexplicable, brutalement, dans le chaos du passage à l'acte criminel, envahis par la somme de frustrations qu'ils ont accumulées jusqu'au geste ultime. Des êtres qui, inévitablement, aucun criminel ne reconnaîtra ses torts, qui, inévitablement, réfutent leurs actes, parce qu'ils ne peuvent en intégrer l'horreur. Alors, vous allez me dire pourquoi des femmes, bourreaux ou victimes. Sans doute, tant doute, je me trompe peut-être, parce que l'autre femme est la mieux à même de percevoir toute leur complexité, qui se manifeste même dans le refus indicible de l'enfant, de la maternité. Sans doute aussi parce qu'elles revendiquent leur égalité, jusqu'à figurer au même titre que les hommes sur des bancs de cour d'assises. Sans doute encore parce qu'elles empruntent de plus en plus à l'arsenal de mort des hommes et qu'elles n'hésitent plus à investir des actions de plus en plus violentes. Le couteau, manié souvent par des femmes, alors qu'avant elles étaient plus centrées sur des actions plus discrètes, notamment l'empoisonnement. Sans doute enfin parce que je suis intriguée quelque part par la spécificité génétique de ces femmes qui leur interdit de quitter des territoires connus, les cercles dans lesquels elles se sont enfermées. Leur entourage proche, leur famille, leurs affects sur lesquels elles focalisent, se replient, contre lesquels elles se révoltent, qu'elles rejettent. Parce qu'elles se sentent prisonnières, quelque part, d'un certain conformisme social qui ne leur correspond plus à un moment donné de leur vie. Et que leur rêve d'indépendance, leur rêve d'autonomie, leur rêve de matin qui ne seront plus ni brumeux ni répétitifs, passe inévitablement par le fait qu'elles doivent couper leurs entraves de façon violente. Même à travers le sang, même à travers les larmes, même à travers la douleur et la souffrance. Thérèse Esquerou, dans le crime bordelais, avait été contenue socialement, à l'ombre des ramures des pas, a fait des émules, qui n'hésitent plus à brandir l'hérésie des dysfonctionnements passionnels, en entamant l'harmonie des clés du XVIIIe siècle et en insultant le siècle des Lumières. J'entends encore François Mauriac déplorer déjà les branches rompues, les matins trop bleus et puis l'après-midi toute cette boue. Mais dans le silence des actes interdits et dans la discrétion des crimes de femmes, ancrés au sein de leur intelligence, de leur pragmatisme, de leur réflexion, il y a des femmes qui ne se risquaient pas, à l'époque évidemment, à emprunter les chemins périlleux de l'improvisation à travers des poisons raffinés et subtils. Alors qu'à l'heure actuelle, par amour, par crainte ou par soumission à leurs entrailles, elles n'hésitent plus à s'engouffrer dans leur pulsion de vie ou dans leur pulsion de mort. Bourreau ou victime, c'est le dilemme de toutes ces femmes au sein de leur conjugalité, de leur enfantement, de leur rêve bovariste de passion absolue. Il y a d'abord Madeleine qui entame cet ouvrage, l'égérie d'un siècle où le romantisme est envahissement de la conscience et des comportements, qui sublime sa passion au-delà de la mort parce qu'elle a été magnétisée sous le regard envoûtant d'un homme cultivé, d'un homme policé, d'un littérateur, qu'il a mis en scène dans la dernière pièce macabre du siècle, celle qu'il a rêvé d'écrire, sans doute, lui qui n'est que la victime d'un perpétuel avortement de l'esprit. Il la tue, sans la suivre au sein du lit funèbre, en empruntant à travers son passage à l'acte à l'égocentrisme tout-puissant de ses homologues du XXIe siècle, qui parade un instant, excusez-moi messieurs, sur leur tréteau pour donner à une femme l'illusion du bonheur et qui immanquablement rejette violemment leur proie lorsqu'ils ont rempli leur fonction. Madeleine, mais aussi Christelle, B, Nadia, dont la cour d'assises de Bordeaux perçoit encore les cris et les suppliques. Christelle, enterrée anonymement dans un bois, par un mari éconduit qui la massacre à coups de couteau. Nadia, la prostituée bulgare, qui n'a rien de commun avec les prostituées de l'affaire Strauss-Kahn. Cueillie dans un parking près de la gare, le massif facial écrasé par une pierre, pour 50 euros. Il est livré la nuit aux paumés, aux détraqués, aux marginaux en tout genre. Pour de maigres revenus, 50 euros. 50 euros. B, dans le premier amour, la première étreinte, y a attisé la compulsivité d'un serial violeur qui la recherche, qui la poursuit à travers toutes ses victimes sur le campus universitaire de Talence. Des femmes ensevelies, des femmes martyrisées, souvent fragilisées psychiquement par des expériences douloureuses antérieures, des femmes qui, elles aussi, sont bourreaux. Parce que leur contagion émotionnelle passe à proximité immédiate du ressenti de leur prédateur. Et ça, c'est une contagion émotionnelle qui se perçoit inévitablement. Et puis, il y a Cantalie, Nathalie, Vera, qui sont les acteurs de leur propre vie jusqu'au bout de l'horreur. Cantalie, qui égorge son compagnon et qui maquille son crime. Cantalie, la Laotienne, qui a vécu dans des camps au Laos de concentration, qui aussi sans cesse entre eux, la réalité de son acte et la pensée magique qui l'occulte, et qui monte un scénario digne des plus grands romans policiers. Nathalie aussi, qui programme l'exécution de son mari avec l'aide de son amant. Elle est l'égérie, il est le bras armé. Et puis il y a Vera. Vera, c'est le bout de l'horreur pour une femme. Vera, coupable d'infanticide, qui évacue son enfant mort de son esprit jusqu'au délit de toute grossesse. Vera, qui en maison d'arrêt ne parlera jamais du petit être qu'elle engloutit dans les toilettes d'une station-service après l'avoir étranglée. Cantalie, Nathalie, Vera, victime de leur soumission, victime de leur dépendance, qu'elle rejette brutalement, sans aucun signe annonciateur apparent, en mettant à distance tout ce qui pourrait castrer leur corps, leur mental ou leur existence. Des femmes bourreaux victimes, ou plutôt bourreaux et victimes. Dans un face-à-face hallucinant tout de même, que j'ai remarqué pendant 30 ans, où l'effet miroir incite quelque part les bourreaux à se victimiser, de par leur enfance, de par leur carence sociale, de par les coups qu'ils ont reçus, etc., etc. Et les victimes à rechercher inconsciemment la proximité de leurs prédateurs parce qu'ils sont imprégnés des mêmes carences et des mêmes frustrations. Ce livre, évidemment, ne peut traduire les soupirs, les gestes, les regards, les sanglots. Il faut pénétrer, pour ce faire, dans l'antre des cours d'assises. Il ne peut que vous faire appréhender une justice criminelle qui reste la vôtre, puisqu'elle émane d'un jury populaire. La matière humaine est complexe, très complexe. Le comportement déviant, difficile à décrypter. Mais vous aurez compris, certainement, que je suis toujours aussi passionnée par le côtoiement de l'âme humaine dans sa diversité et dans ses errements. Jusqu'à cette part absolue de révolte qui réside en tout être et qu'on ne peut gommer. Parce qu'il justifie qu'on tienne debout malgré tout. Le crime ne fascine plus, n'interpelle plus. Il est tombé dans le magma des médias. Les affaires criminelles se succèdent les unes après les autres. On décolle au fur et à mesure des audiences, les rôles que l'on épingle dans la salle des pas perdus d'une cour d'appel et puis on les enlève. telles de vieilles affiches de cinéma ou de théâtre, qui ne sont plus d'actualité. Les bancs des cours d'assises ne sont plus fréquentés que par d'anciens jurés, passionnés par leur fonction trop éphémère, ou par des écoliers ou des étudiants de droit. À qui on explique qu'un avocat général n'est pas un avocat et qu'il est chargé de défendre la société et ses principes fondamentaux sous peine de chaos social. Lorsque j'enlève, après chaque affaire, ma robe, j'éprouve une grande lassitude. Face à l'identité de mon combat et la fureur montante du siècle. Je persiste pourtant à emprunter encore et encore ce cheminement difficile qu'est le mien. Il y a le rocher que l'on hisse, inlassablement, jour après jour, jusqu'au sommet de la montagne, et puis sa retombée irrémédiable dans le vacarme assourdissant de ses éclats minéraux. Telle est ma mission, tel est mon devoir. C'est à Camus, mon maître, à penser que j'emprunterai encore quelques lignes pour clore mon propos avant de laisser la parole à maître Gudin. C'est alors que tout a vacillé. La mer a chaviré un souffle épais et ardent. Il m'a semblé que le ciel s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Tout mon être s'est tendu. J'ai crispé ma main sur le revolver. La gâchette a cédé. J'ai touché le ventre poli de la crosse et c'est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que tout a commencé. J'ai secoué la sueur, j'ai secoué le soleil. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour, le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux. Alors, j'ai tiré, encore, 4 fois, sur un corps inerte, où les balles s'enfonçaient sans qu'il y parût. Et c'était comme 4 coups brefs que je frappais sur la porte du malheur. Je vous remercie.
Madame l'avocat général, vous l'aurez compris, c'est à la fois un honneur mais aussi un grand bonheur pour moi de parler après vous. Et je le ferai d'autant plus facilement que j'ai eu la chance de voir le manuscrit à ses tout débuts. Et vous l'aurez compris tous, ce n'est pas seulement un document. C'est une œuvre que ce livre. C'est une œuvre que ce livre parce qu'il y a une lumière très crue, un peu à la Edward Hopper, des tableaux d'Edward Hopper avec une lumière crue sur des êtres humains un peu disloqués. C'est ça ce livre. C'est une façon, à partir du quotidien, de toucher à l'universel. Et ça, ça fait la matière des grands livres. C'est l'étoffe des livres. Moi, j'ai été fasciné au début par cette écriture extrêmement nerveuse, cette écriture extrêmement rapide, cette façon qu'elle avait d'accoucher en quelque sorte de choses qui l'a touché énormément. Ce n'est pas seulement dans le cadre classique d'une cour d'assises que je connais mal, car je ne suis pas un avocat d'assises et on peut être surpris que je sois là. C'est simplement parce que ce livre touche à quelque chose de beaucoup plus profond. Ce livre touche à des mécanismes de passage à l'acte, à des mécanismes de victimisation, à des mécanismes très étranges d'effet miroir entre la victime et le bourreau, et à un domaine très particulier que seule Madame Hoflack pouvait aborder, qui est celui du comportement des femmes. Si un homme avait écrit un livre pareil, on l'aurait taxé de machisme, on aurait dit qu'il avait des a priori sur l'âme féminine. Pas du tout. C'est une femme qui va oser dire « les femmes sont différentes des hommes dans leur comportement ». Ce n'est pas du tout dans l'air du temps. Et ce n'est pas du tout quelque chose de réactionnaire. Du tout. Car il y a une vieille définition des discriminations auxquelles on tient tant, puisque l'essentiel est à l'absence de discrimination, et c'est très bien, entre les hommes et les femmes. Mais on oublie que discriminer, ce n'est pas seulement traiter de la même façon des situations différentes, ce qui n'est pas acceptable, c'est aussi parfois traiter de la même façon des situations qui diffèrent. Traiter de la même façon des situations qui diffèrent, c'est quelque chose qui risque de porter atteinte à l'essence même du féminin, surtout que l'essence même du féminin est connotée historiquement considérablement, car ce n'est bien évidemment pas de la faute des femmes si leurs crimes sont dans un territoire particulier, proche de la famille, de la maison, de leur enfant, de leur amant, de leur mari. l'espace des femmes tend à s'émanciper, et c'est tant mieux, bien évidemment. Mais ce qu'a voulu dire Madame Oflac, je crois, et que moi j'ai ressenti en tant qu'homme vis-à-vis des femmes, c'est qu'il y a une spécificité, une manière de commettre le crime, une manière de passer à l'acte, une manière de se comporter au cours du procès qui est très particulière. Et tout cela se trouve dans ce livre. Alors, pourquoi ce livre est intéressant et pourquoi ce livre a une particularité et une originalité? Ce livre me fait penser à la construction de ces films italiens des années 50-60 où on faisait des films à sketch avec des petits événements. Et ces petits événements sont tous grands. On prend des petits événements du quotidien, on les magnifie, on les explique très rapidement. Il n'y a pas d'analyse approfondie de la psychologie de chaque personne, car on laisse au lecteur le soin de le compléter. Et c'est ça qui est le signe d'une écriture. Et c'est pour ça que je voulais vous dire que moi, j'étais très sensible à ce livre et j'étais très heureux et très honoré d'en faire la préface.
Merci, Patrick.